Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. L'article 24 de la proposition de loi Sécurité globale, vous en parliez, a été voté par les députés en première lecture hier. Il pénalise la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Nous reviendrons sur cette journée mouvementée à l'Assemblée nationale.
Les commerçants attendent la prise de parole du président Emmanuel Macron. Mardi soir, le Black Friday du 27 novembre, journée de promotion géante, sera décalée d'une semaine sous réserve d'une réouverture des commerces d'ici là.
Comment les maires perçoivent-ils la gestion de la crise sanitaire? Le troisième volet de l'enquête annuelle du CEVIPOF permet d'y répondre. Globalement, ils estiment que leurs demandes n'ont pas été suffisamment prises en compte. Un héros pour les uns, un modèle de courage pour les autres. Le grand résistant Daniel Cordier est mort hier. L'avant-dernier compagnon de la Libération avait 100 ans.
Et nous en parlerons juste après votre journal, Margot, avec Jérôme Clément qui avait enregistré une série d'entretiens avec Daniel Cordier pour France Culture en 2013.
Tant pis pour la belle opération de communication prévue par l'Arabie Saoudite. Le pays préside le G20. Il s'ouvre aujourd'hui, mais en version virtuelle. Covid oblige.
La pollution a-t-elle provoqué une maladie de la peau aux pêcheurs sénégalais? C'est en tout cas une hypothèse étudiée. Des centaines de pêcheurs ont fait d'impressionnants boutons après leur sortie en mer.
À suivre le reportage de notre correspondante près de Dakar. Et dans la deuxième partie des matins du samedi, Chloé.
Après l'hommage à Daniel Cordier, nous serons avec Alain Fuchs, président de l'Université Paris Sciences et Lettres, ancien président du CNRS, pour parler de la contestée loi de programmation pluriannuelle de la recherche définitivement adoptée hier, mais aussi du moral et des conditions de vie des étudiants sérieusement dégradés par la pandémie.
L'Assemblée nationale a voté hier en première lecture l'article 24 de la proposition de loi dite de sécurité globale. Il pénalise d'un an de prison et 45 000 euros d'amende la diffusion de l'image du visage ou tout autre élément d'identification des forces de l'ordre en intervention quand elles portent atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Face à la colère de nombreux journalistes, le gouvernement a voulu donner quelques garanties sur le droit d'informer en précisant l'article, Benjamin Mathieu.
La réécriture de ce fameux article 24 qui polarisait les critiques a donc été adoptée. Gérald Darmanin a rajouté l'intention manifeste de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre. Et voilà ce que ça change pour le ministre de l'Intérieur.
Ce qu'il ne pourra plus faire, par exemple, c'est en diffusant en direct un message du genre « Eh les amis, pour ceux qui veulent les adresses personnelles de ces connards de flics, et même sans préciser ces connards de flics d'ailleurs, donnez-moi leur numéro de téléphone ou les coordonnées de leur femme ou leur mari. Envoyez-moi un message en MP, je vous répondrai avec un smiley. »
Même si la majorité a voté pour, certains députés du MoDem alliés de la majorité ont eux voté contre. Mais les critiques les plus virulentes sont venues de la France insoumise. Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis.
« Vous vous en défendez caricaturalement, mais cet article 24, c'est celui de la honte. Vous vous défendez en parlant d'empêcher les menaces de mort à l'encontre des policiers sur les réseaux sociaux. Comme si menacé de mort, un fonctionnaire de police n'était pas déjà interdit par la loi. Alors là, j'ai envie de vous dire, au lieu d'attaquer la démocratie et l'opposition, faites simplement votre boulot.
Article adopté, certes, mais le vote solennel sur l'ensemble du texte aura lieu, lui, mardi prochain à l'Assemblée.
Et plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui pour protester contre cette proposition de loi à l'appel de journalistes, d'ONG et d'associations. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation à cause du Covid-19 continue de baisser légèrement, mais le bilan des victimes reste lourd. 386 malades en sont morts ces dernières 24 heures selon Santé publique France. Au total, plus de 48 000 personnes sont décédées dans le pays à cause de ce coronavirus depuis le début de l'épidémie. C'est donc dans ce contexte est en plein reconfinement, alors que la réouverture des commerces jugée non essentielle est prévue le 1er décembre, que se déplace aujourd'hui à Dijon le Premier ministre Jean Castex. Nous devrions en savoir plus mardi soir, au moment de l'allocution du président de la République Emmanuel Macron. En attendant, la grande distribution et le commerce en ligne ont accepté de décaler d'une semaine le Black Friday, la journée de promotion, du 27 novembre au 4 décembre, sous réserve d'une réouverture des commerces d'ici là. Une opération que dénoncent certaines marques qui appellent à une consommation plus responsable. Au milieu, le consommateur, lui, est tiraillé. Philippe Moati a cofondé l'Observatoire Société et Consommation.
Pour tout un chacun, il y a une partie de soi qui dit stop, c'est too much, à la fois parce qu'effectivement on nous embobine, hein, on nous fait miroiter des bonnes affaires qui n'en sont pas toujours, et puis ça nous pousse à consommer, et puis qu'on sait qu'aujourd'hui, consommer comme ça, sur un mode quantitatif, ça nous met dans le mur. Donc ça, c'est clairement vu, et je pense que d'une année sur l'autre, ça progresse. Il y a une vraie accélération à la prise de conscience du lien entre l'hyperconsommation et la crise écologique au cours des toutes dernières années. Donc c'est en chacun d'entre nous. Ça, on peut pas dire qu'on sait pas. Voilà. Et on y est sensibilisé. Et de l'autre côté, ben, de toute façon, il faut quand même consommer, sans compter cette année l'idée que consommer est presque un geste citoyen hein, pour soutenir l'économie. Donc, on a besoin de consommer. Et donc, on se dit, ben, si j'achète pas quand c'est pas cher, je suis le danon de la farce dans cette affaire. Donc, on peut comprendre que ben, on participe à la fête. Donc, on n'aime pas, on la critique, mais en même temps, ben, on y participe parce qu'on trouve que c'est comme ça qu'il faut consommer intelligemment. Consommer responsable, aujourd'hui, ça coûte quand même un peu plus cher. Donc, on a quand même un écart entre la posture et les comportements qui ont tendance à être plus élevés en bas de l'échelle sociale du simple fait que là, souvent, la contrainte l'emporte sur les idéaux.
Philippe Moati avec Anne-Laure Jumet. Après la ville de Brest, c'est donc, on le disait, au tour de Dijon d'accueillir le chef du gouvernement aujourd'hui. Et les maires sont en première ligne dans la lutte contre l'épidémie et beaucoup estiment que leurs demandes n'ont pas été assez prises en compte par l'État. C'est ce qu'on peut lire dans une étude du CEVIPOF, le centre d'études associées à Sciences Po, que nous détaille Stéphane Robert.
Selon cette enquête, 40% des maires estiment avoir été correctement associés à la gestion de la crise sanitaire, tandis que 48% affirment le contraire. Globalement, ce n'est donc pas vraiment satisfaisant. Si on regarde un peu plus en détail, on voit d'abord, nous dit le directeur du CEVIPOF, Martial Foucault, que la relation entre les maires et les préfets a plutôt bien fonctionné.
Beaucoup de maires ont indiqué que, effectivement, ils avaient obtenu un soutien, une assistance, et donc il y avait un travail presque main dans la main avec les préfectures. Donc ils sont globalement satisfaits, surtout les maires sortants.
Là où ça n'a pas marché, c'est dans la relation avec les ARS, les agences régionales de santé.
Leur jugement est très sévère sur les ARS. C'est une toute petite minorité qui considère que le travail a été efficace.
Les maires pointent à la fois un manque d'information, un manque de cohérence dans la prise de décision et une prise en compte aléatoire de leurs attentes.
Ils se plaignent à la fois d'un manque de directives très très claires. Ils nous disent parfois qu'ils ont été informés plus par la PQR que directement par les ARS. Et on l'a vu, notamment les maires disent on n'a pas eu les matériels de protection, bien sûr la question des masques, mais c'est pas seulement les masques pour leurs citoyens, c'est les masques aussi pour un certain nombre d'établissements dans les municipalités, les écoles, en particulier le personnel dans les écoles, les matériels de test. Donc beaucoup de maires découvrent l'incapacité de travailler avec des agences qui sont censées être des agences déconcentrées de l'État.
Cette enquête sur la gestion de la crise sanitaire confirme que le malaise entre les maires d'un côté et de l'autre, le gouvernement et les services déconcentrés de l'État n'est pas dissipé. Elle montre une nouvelle fois un sentiment largement partagé d'une trop grande verticalité de la prise de décision et l'impression d'une inégalité de traitement entre les territoires.
Un hommage national sera bientôt rendu à Daniel Cordier, dont la vie entière aura conjugué l'amour de la France et la passion de la liberté, selon Emmanuel Macron. Le chef de l'État a rendu hommage à l'avant-dernier compagnon de la Libération, mort hier à l'âge de 100 ans. Ancien secrétaire de Jean Moulin, ancien chef de cabinet du patron des renseignements, il a finalement décidé, après-guerre, de se lancer dans une toute autre carrière, celle de marchand d'art.
Un jour, j'ai acheté une boîte de peinture à l'huile et des petites toiles et j'ai commencé à faire de la peinture. Et ça m'a passionné. Sauf que mon dessin est nul, je suis incapable de faire de la peinture. Mais pendant que je faisais de la peinture, j'achetais des tableaux. Après mes 8 ans de peinture, je n'avais plus d'argent, j'avais beaucoup de tableaux. Et des amis qui m'ont dit, mais pour continuer ta peinture, tu n'as qu'à vendre. J'avais une quinzaine de stalles. Si tu veux faire quelque chose, il faut être marchand de tableaux.
Vous avez ouvert votre galerie sur un type d'artiste très originaux.
J'avais 23 peintres sous contrat. Pour que mon travail de galerie soit intéressant, je n'avais pas d'argent pour acheter Picasso, Braque, etc., etc. Donc c'était les peintres que j'avais les moyens d'acheter.
Oui, mais c'est pas seulement une question de moyens, c'est aussi une question de goût.
Il y a une question de goût. Mais dans la question de goût, vous ne pouvez pas avoir pour vous tout seul des artistes sous contrat. Par exemple, Artung, il m'a vendu quelques tableaux, il m'a vendu surtout des dessins, des gouaches, parce que ça, il avait le droit de les vendre librement, mais c'est tout ce que j'ai pu avoir de lui. Tandis que Dubuffet, je suis allé chez lui, il m'a montré ses tableaux et tout ça. L'admiration que j'avais pour son travail, ça lui a plu et il était d'accord pour venir avec moi entièrement.
Daniel Cordier en 2013 avec Jérôme Clément dans À voix nue. Jérôme Clément qui sera avec nous juste après ce journal. Il reste donc un seul compagnon de la Libération encore vivant, Hubert Germain, lui aussi centenaire. Le dernier sur plus de 1000 compagnons distingués par le général de Gaulle pour leur engagement pendant l'occupation allemande au sein de la France libre.
France Culture 8h11, Margot Delpierre, cette année le G20 aura lieu en visioconférence comme n'importe quelle autre réunion.
Le sommet qui s'ouvre aujourd'hui est virtuel, dommage pour l'Arabie Saoudite qui le préside. C'est la première fois qu'un pays arabe accueille un sommet des représentants des principaux pays riches et émergents. La monarchie pétrolière espérait en faire une vitrine, c'était sans compter sur la pandémie de Covid-19. Tant pis pour la grande opération de communication du régime, Aurélien Colli.
Pour la monarchie saoudienne, en particulier l'homme fort du pays, le prince héritier Mohamed Ben Salman, ce G20 devait permettre de faire la promotion du royaume, de son programme de réformes économiques et sociales, sobrement baptisé Vision 2030, et des projets lancés pour diversifier l'économie pétrolière et rentière, en l'ouvrant vers l'extérieur et en attirant les investisseurs. Sur la scène internationale, ce G20 devait aussi permettre à l'Arabie de redorer son blason et de réchauffer ses relations avec l'Occident, 2 ans après l'assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi, dans le consulat saoudien d'Istanbul, un meurtre aussi dévastateur pour l'image du pays que le 11 septembre avec ses pirates de l'air saoudien. Sur la scène régionale enfin, ce G20 devait renforcer le statut de Riyad, premier pays arabe à l'accueillir, faire un peu oublier la guerre au Yémen, faire aussi un pied de nez au grand voisin et rival, l'Iran, avec la bénédiction de l'administration Trump. Mais voilà, le Covid est venu gâcher la fête et l'opération de communication internationale. Pas de cérémonie, pas d'ouverture en grande pompe, juste un sommet virtuel qui réduit évidemment la portée de l'événement, tout en exposant le régime saoudien aux critiques et aux appels au boycott des organisations de défense des droits de l'homme. Elle dénonce la répression tout azimut des opposants sous couvert de modernisation ou la guerre sans fin au Yémen menée avec des armes occidentales.
Et le président sortant des États-Unis, Donald Trump, participera lui aussi à ce G20. Quant au secrétaire d'État américain Mike Pompeo, il a rendez-vous aujourd'hui au Qatar avec les négociateurs des talibans et du gouvernement afghan. La capitale afghane, Kaboul, a d'ailleurs été secouée par plusieurs fortes explosions cette nuit. Des roquettes, selon le porte-parole de la police, qui ont touché des quartiers densément peuplés. Dans l'immédiat, aucune victime n'était signalée, pas de revendication non plus. Les Nations Unies demandent l'ouverture de couloirs humanitaires pour aider la population en Éthiopie. Les civils sont pris dans les combats dans la région dissidente du Tigré. La situation pour eux est dramatique, regrette le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres déplore l'absence de médiation avec les autorités locales. Chaque jour, environ 4000 Éthiopiens fuient au Soudan, le Soudan qui doit gérer une crise humanitaire en puissance. Les réfugiés, eux, sont sidérés par la situation. C'est à lire sur notre site franceculture.fr. Dans l'ouest du continent africain, cette fois sur la côte atlantique, des pêcheurs sénégalais sont revenus de leur sortie en mer avec des pustules. Une maladie encore mystérieuse qui a touché 600 personnes pour l'instant. Plusieurs ministres se sont rendus sur place. Un comité de crise a été créé. L'hypothèse de la pollution est avancée pour expliquer l'apparition de ces boutons. Le reportage de Théa Olivier.
Le quai de pêche de Tiaroy-sur-Mer, en banlieue de Dakar, est déserté par les bateaux. Toutes les activités en mer sont suspendues, le temps de mieux connaître la maladie qui touche les pêcheurs. Une mesure qui inquiète Pape Sec, originaire d'un petit village à l'est de la capitale.
C'est difficile de ne pas travailler car je dois nourrir la famille, rester au village.
Pape Sec a commencé un traitement contre les boutons qui s'étaient étendus sur son nez, ses mains et ses lèvres.
Ça fait très mal, surtout quand l'air marin ou l'eau de mer passe sur les boutons. Ça fait très mal quand même. Je pense que c'est l'eau usée qui est dans la mer qui est la cause de cette maladie, parce que quand l'eau me touche, ça me pique la peau.
Ibrahim Baye, inspecteur des pêches à Pikine, appelle à la patience des pêcheurs pour leur santé, mais aussi pour celle des consommateurs.
Jusqu'à présent, on n'a pas eu une espèce de poisson contaminé. Mais il y a des résultats qu'on attend. Surtout le poisson qui vient vraiment de la zone où on soupçonne la pollution. Donc on a pris des espèces là-bas. Maintenant, on attend les analyses.
Des prélèvements sont effectués sur les patients afin de chercher l'origine de la maladie, explique Marie-Rémès Ndiaye, directrice générale de la santé au ministère.
on n'a pas encore vu une seule contamination, en tout cas dans les maisons. Pour le moment, c'est circonscrit au niveau des pêcheurs, mais pour des raisons de sécurité, je pense que ces plages-là, il faut moins les fréquenter.
Selon les autorités, les premiers patients sont stabilisés et leurs lésions commencent à disparaître.
Théa, Olivier, rapidement la météo en France, ce sera plutôt ensoleillé. Aujourd'hui, 5 degrés cet après-midi à Strasbourg, 10 à La Rochelle, 11 degrés à Biarritz et 15 à Nice. Il est 8h05.